Nous vous proposons maintenant une interview du docteur Jacques Labesca.
Bonjour Jean-Claude Kaufmann.
Bonjour.
Eh bien, pourquoi nous avons invité aujourd'hui Jean-Claude Kaufmann, qui est à la fois sociologue, directeur de recherche au CNRS et auteur de nombreux livres sur le couple? Parce que justement, il vient d'écrire un nouveau livre sur le couple et qui nous a interpellés. Le titre déjà, « Pas envie ce soir », qui a paru au « Lien qui libère ». Alors, « Pas envie ce soir », pourquoi ce nouveau livre, Monsieur Kaufmann?
Alors moi, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est pas le premier livre sur le couple, mais parfois je suis l'actualité et je suis interpellé par cette actualité. Et l'actualité récente, mais un livre, ça demande quelques mois, voire plus de travail, et donc ça remonte à MeToo, hein, l'affaire MeToo, l'affaire Weinstein, et puis tout le mouvement MeToo, et cette question du consentement qui est apparue, qui est une espèce de rupture, de nouveauté historique, hein, parce que traditionnellement, dans les codes de séduction, les hommes faisaient progressivement pression sur les femmes, et les femmes avaient même, c'était les rituels qui étaient établis, dressaient des barrages, et même si elles avaient envie de leur part, elles ne cédaient que progressivement. Et ça, c'était l'ancienne manière de faire que nous allons avoir à changer, et ça va pas être simple. Donc cette question du consentement qui paraît assez simple dans la tête, hein, c'est le slogan MeToo, quand c'est non, c'est non, effectivement, par rapport à la complexité des rituels dans la vie intime, dans la vie quotidienne, ça sera plus compliqué à réformer, ça j'en ai été convaincu dès le départ. Donc dès que cette affaire Weinstein a éclaté, je me suis dit, il faut que j'ouvre un chantier de travail, que j'enquête là-dessus. Mais comme le sujet est vraiment vaste, énorme, gigantesque, le harcèlement dans l'entreprise, c'est pas la même chose que le harcèlement de rue, et c'est pas la même chose que ce qui se passe dans le couple. Et comme mon domaine plus particulier, c'est le couple, donc j'ai décidé d'enquêter sur cette chose-là, le consentement dans le couple. Est-ce qu'on essaie de savoir si l'autre a envie, d'ailleurs? C'est pas si évident que cela. Comment ça se passe, très précisément, sous la couette? Et donc, j'ai enquêté pendant plusieurs mois. Donc, ça m'a demandé le temps de l'enquête et de l'écriture du livre, près de 2 ans. Quoi.
Voilà, alors, j'étais un petit peu ennuyé en lisant votre livre, qui est très intéressant et qui comprend beaucoup de témoignages, parce que j'ai l'impression que vous avez tendance un petit peu, allez, je vais vous provoquer un peu, à réduire le couple à l'acte sexuel. Et j'ai l'impression que plus on parle de sexe, à la limite, moins on le fait, et plus on défait les couples. Est-ce que je me trompe?
Oui, vous vous trompez.
Et ben voilà.
Je suis désolé, parce que une des conclusions du livre, alors moi, c'est pas les conclusions, c'est pas moi qui le dis. Hein, ce sont les personnes qui sont interrogées, hein, je traduis un petit peu ce qu'elles me racontent, c'est la fatigue de l'obsession de se soumettre à cette sexualité centrale, et avec l'envie de dire qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie, que ça peut être important. Alors, ça peut être plus important pour certains couples, hein. Pour certains couples c'est plus important, mais pour d'autres, non. Le meilleur exemple qui prouve ça, c'est le nombre de femmes très nombreux, hein, que j'ai eu dans l'enquête, qui se sentent obligées de se forcer, qui ont une perte du désir au cours de la vie conjugale, notamment après la naissance des enfants. Et pourquoi elles se forcent? C'est parce qu'elles tiennent au couple. Elles disent qu'elles aiment leur compagnon, elles tiennent le petit monde d'amour qui a été créé. Elles disent, on forme une bonne équipe, on est bien ensemble. Et ce petit monde conjugal aujourd'hui est incroyablement précieux. On est dans une société qui est très dure pour les individus, qui est éprouvante, qui est déstabilisante. Et le couple est un univers, quand ça fonctionne bien, parce que ça fonctionne pas toujours très bien, quand ça fonctionne bien, c'est un univers de protection, de réconfort, de douceur et de caresse dans le meilleur des cas. Et pour ces femmes, c'est ça qui était au centre. Non, tout au contraire, je dénonce d'une part la fable de la sexualité libérée, parce que on en est encore très loin aujourd'hui, on a progressé, mais on en est très loin, on parle pas facilement de la sexualité, et puis également cette injonction à la performance sexuelle et presque à la perfection sexuelle, alors qu'il faut il faut se décontracter par rapport à tout ça et puis se dire que il n'y a pas que le sexe dans la vie, on n'a pas une obligation de jouissance, de plaisir, etc. On fait ce qu'on peut d'une certaine manière.
Mais alors, justement, vous nous dites, j'allais vous demander, en étant vous êtes sociologue, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu la perte d'identité entre l'homme et la femme qui fait que l'homme aurait envie, allez, je vais en prendre un mauvais jeu de mots, aurait envie de reprendre la main et force un petit peu son épouse à devenir soumise ou à être toujours soumise? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est aussi la perte de place un peu de la société, à la fois de l'homme et puis de la femme? Est-ce que ça se mélange pas un peu trop et est-ce que c'est... On n'essaye pas quelquefois d'utiliser des raccourcis clavier.
Dans les couples aujourd'hui, hein, chacun cherche son équilibre, hein, le bien-être, le bonheur. On n'essaie pas de rentrer dans un rôle masculin ou féminin, mais ce que je constate dans l'enquête, c'est quand même qu'il y a ce que j'appelle une divergence des trajectoires des désirs. Au début du couple, alors qu'autrefois le désir féminin s'exprimait moins, aujourd'hui il s'exprime vraiment davantage. Et puis au cours de la vie conjugale, eh bien il y a quelque chose qui se passe, et c'est ça que j'essaie d'analyser dans le livre. C'est très lié au fonctionnement du couple. Et il y a par exemple, et ça c'est pas uniquement moi qui le dis, hein, il y a des chiffres de grandes enquêtes statistiques menées par l'INED, l'Institut National des Études Démographiques et l'INSERM, qui montrent que quand le partage des tâches est très inégalitaire et qu'une femme est déçue de ce partage inégalitaire, elle va avoir une baisse de son désir. Donc là, il y a des mécanismes que l'on ne connaissait pas trop et qui expliquent qu'il y ait une diminution du désir féminin. C'est pas qu'une question un petit peu de souhait des deux personnes, il y a quelque chose qui est lié au fonctionnement conjugal.
Alors oui, à part une qui vous nous dit, enfin qui témoigne du moins, que quand son mari veut la forcer un peu, elle va laver ses casseroles et ensuite ça la calme et elle va pouvoir être beaucoup plus disponible. Mais est-ce que finalement l'acte sexuel c'est pas un besoin pour l'homme et un désir pour la femme?
Alors ça, c'est les vieux, les vieux stéréotypes. Les spécialistes nous disent que c'est pas un besoin. Hein. Les besoins, c'est dormir, c'est manger, et l'acte sexuel n'est pas un besoin biologique. D'une certaine manière, on peut tout à fait, on peut pas se passer de manger, on peut se passer de ne pas faire l'amour, de ne pas avoir de jouissance d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des impulsions, il y a des pulsions, effectivement, pulsions qui peuvent être contrôlées. Et effectivement, également, il y a, je ne réduis pas tout au biologique, mais il y a des petites différences biologiques dans la mécanique du désir entre les hommes entre les femmes, le désir des hommes est plus se déclenche de manière plus rapide, de manière plus immédiate. Du côté des femmes, c'est souvent plus lent, plus complexe, et il y a besoin d'être dans une situation qui favorise et qui déclenche ce désir.
Alors, il y a une phrase qui m'a fait un petit peu peur dans votre livre. Vous mettez « le sexe devient le vainqueur des sentiments ».
Alors ça dépend. Non, c'est dans une situation très très précise, parce que justement on parlait de stéréotypes. On a l'habitude de dire que pour que les femmes aient du désir, il faut qu'elles aient du sentiment. Et ça, c'est vérifié dans l'enquête, mais pas n'importe quel sentiment. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui déclarent aimer leur mari, mais ne plus avoir de désir pour lui. Il faut que ce soit un sentiment de rupture, un petit peu passionnel, comme lors d'une nouvelle rencontre, pour que désir se développe. Et du côté des hommes, le stéréotype a une part de vérité également. On voit que les hommes ont cette capacité à avoir du désir, quel que soit l'état de la relation conjugale, hein, qu'elle soit passionnée, amoureuse, qu'elle soit plus routinière, voire qu'elle soit conflictuelle, il peut continuer à y avoir du désir du côté de l'homme. Mais il y a un contexte très particulier et très intéressant, c'est celui où la femme n'a plus très envie, et où où l'homme, lui, se sent frustré, et il explique très bien que c'est pas une question de jouissance, de plaisir personnel. Ça va au-delà. D'ailleurs, parfois, il essaie de résoudre la question par une infidélité. Il y pense, en tout cas, mais il ne passe pas à l'acte. Ou bien, quand il passe à l'acte, parfois, il est déçu, parce que son rêve, ce serait de pouvoir faire plus l'amour avec sa femme. Et à ce moment-là, il explique à cette dernière que s'il pouvait faire plus souvent l'amour, ça serait au nom du grand amour, ça redynamiserait leur couple, c'est ce qui est dans ses pensées à ce moment-là. Ce qui est particulièrement déstabilisant pour la femme qui est en face, parce que son mari lui parle presque sentiment à partir de la sexualité.
Alors, il y a une chose qui est grave et dont vous témoignez dans votre livre, c'est que si la parole s'est libérée un petit peu quant au viol tout court, elle s'est pas libérée quant au viol domestique.
Oui, alors il faut faire très attention avant d'employer ce terme viol domestique.
Parce c'est vous qui l'utilisez. Hein.
Il y a des hommes qui ne se rendent pas compte aujourd'hui, des hommes pleins de bonne volonté, qui ont compris le message un petit peu MeToo, et qui ne se sont pas rendus compte qu'ils forçaient un petit peu leur femme, et que leur femme, ils se sont pas rendus compte, parce que parfois, cette femme ne manifeste pas son non-consentement, son refus, ou le manifeste par des signaux faibles, par exemple une passivité qu'il n'arrive pas à décoder, et là, on est en deçà de ce que j'appelle la ligne rouge, et il faut expliquer à ces hommes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut éclaircir un petit peu et savoir si leur femme a vraiment s'ils ne les forcent pas un peu. Et effectivement, il y a la ligne rouge, le passage de la ligne rouge, et là on rentre dans le domaine des viols domestiques, qui ne sont pas rares, qui sont nombreux aujourd'hui. 31% des viols qui sont commis ne sont pas commis dans un parking, mais sont commis par le partenaire conjugal, et ça peut être extrêmement dur, extrêmement violent, extrêmement destructeur pour la femme qui subit ces viols, et ces viols sont particulièrement impunis. Un dépôt de plainte n'est pas facile pour un viol dans l'espace public ou dans l'espace de l'entreprise, mais dans l'espace conjugal, c'est encore plus difficile. Donc ça, c'est vrai que c'est un très gros problème. Il ne faut pas tout mélanger les questions, mais ça, c'est un problème dont il faut parler absolument. Oui.
Parce que vous citez beaucoup de témoignages où des hommes auraient des rapports avec leurs femmes endormies.
Oui, alors ça, c'est ce que les femmes appellent les petites attaques nocturnes. Alors, elles emploient le terme petite, hein, c'est un petit peu pour dire, bon, il est pas méchant, il se rend pas compte, c'est pas un viol, mais en même temps, elles expliquent que c'est très déstabilisant, pénible, insupportable. Elles ne pouvaient pas être consentantes, étant donné qu'elles dormaient. Donc, c'est extrêmement clair, et être réveillée comme ça, elles expliquent très très bien combien c'est problématique. Alors là, c'est l'exemple même des situations précises, elles sont nombreuses, qu'il faut décoder et dont il faut parler. Il faut dire aux femmes, si vous ressentez ça extrêmement mal, il faut le dire, et puis à ce moment-là, employer les termes qu'il faut, dire par exemple à votre compagnon, peut-être pas le soir même, mais le lendemain, etc., on est quand même à l'époque MeToo, est-ce que tu te rends compte de ce qui s'est passé cette nuit ou hier soir, etc. Donc là, c'est un exemple très précis qui montre que on est en train de changer avec l'époque MeToo, dans les têtes, en parole, on a commencé à changer, mais dans les pratiques, on n'y est pas. Il y a des pratiques qui datent encore du Moyen-Âge et qu'il va falloir changer assez vite maintenant.
Et alors, il y a un chapitre que j'aurais peut-être aimé lire dans votre livre, mais vous ne l'évoquez pas, sauf erreur, c'est les maisons de prostitution. Est-ce qu'elles n'avaient pas un rôle social, sexuel et fantasmique, j'allais dire?
Oh oui, bah, peut débattre effectivement complètement face à ce décalage des désirs, on peut débattre de la question, mais vous imaginez bien que c'est tout un sujet en soi qui mérite absolument une réflexion particulière et tout un livre. Et déjà dans mon livre, je l'ai dit, il y a des contenus qui sont un petit peu différents. Il y a tout cet ajustement quotidien entre deux personnes qui s'aiment et qui n'ont pas compris exactement quels sont les désirs de l'autre. Là, on est exactement au cœur de ce qu'on appelle la zone grise, de quiproquo, d'incompréhension, etc. Et je traite également des viols, quand la ligne rouge est passée. Ce sont presque déjà deux sujets à l'intérieur du livre. Et puis, il y a d'autres... C'est un sujet énorme, absolument énorme. Il y a d'autres entrées dans le livre, comme par exemple, quels sont les profils d'hommes qui font fantasmer les femmes. Et là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de problèmes, parce qu'elles réclament un homme à l'écoute, un homme gentil, et en fait, le profil d'homme qui les fait vibrer, qui éveille le désir en elles, ce n'est pas ce profil de l'homme gentil. Alors là, j'ouvre encore une nouvelle possibilité. Il aurait presque fallu un livre également sur cette question-là. Donc là, je suis désolé, par rapport à votre proposition, ça serait né, parce que ça, on ne peut pas tout dire dans un livre. Il faut qu'il y ait une unité, une ligne directrice, et c'est une vraie question, celle que vous posez, mais elle sera traitée par quelqu'un d'autre bientôt, je l'espère.
Ou dans votre prochain livre.
Ou dans mon prochain livre, mais malheureusement, je ne suis plus un jeune chercheur et j'ai tellement d'envie de livres. J'ai une trentaine de livres qui sont déjà, j'ai mes petites filles, j'ai commencé, qui sont en début de chantier et que je ne réaliserai pas parce que je n'aurai pas le temps. Donc, faut pas me donner de nouvelles idées, ça me rend malheureux.
Bon, bah écoutez, en tout cas, vraiment, ce livre est très complet. Il ouvre des horizons, il fait découvrir des choses et je pense qu'il est à la fois lisible pour les hommes et pour les femmes. Je pense que chacun a en tiré quelque chose et il ne prend pas parti. Donc, on peut vraiment dire que c'est un livre documentaire au sens j'allais dire universitaire du terme, quoi.
Oui, tout à fait. Moi, j'essaie de ne pas prendre parti, et c'est une démarche de vérité, hein, au-delà des idées qu'on se fait, des fables qu'on se raconte. Je veux voir très concrètement comment ça fonctionne, comment ça marche dans la tête des uns et dans la tête des autres.
Eh ben, merci beaucoup, Jean-Claude Kaufmann. Et nous rappelons donc le titre de votre livre, Pas envie ce soir, déjà tout un programme, qui est apparu au Les liens qui libèrent. Merci beaucoup et à bientôt.